Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour André Capron.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous à Canal Académie. Avec vous, pour cette émission, nous allons nous intéresser à un sujet international, la déclaration commune des académies des sciences des pays du G8, à l'occasion du sommet qui a lieu du 15 au 17 juillet 2006. Vous allez donc pouvoir nous donner les détails de cette déclaration, le pourquoi du comment, quel est le but, quel est l'objectif de cette réunion des 8 académies. Quelles sont leurs recommandations générales faites aux dirigeants des 8 plus grandes puissances du monde? Alors, avant de commencer cette émission, permettez-moi quand même de vous présenter André Capron. Vous êtes membre de l'Académie des sciences dans la section biologie humaine et sciences médicales. Et puis, pendant 30 ans, vous avez été chef du service d'immunologie au CHU de Lille, professeur à l'Université de Lille, directeur du Centre d'immunologie et de biologie parasitaire à l'Institut Pasteur, et puis de 1994 à 2000, directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Et vous avez consacré l'ensemble de votre carrière scientifique à l'étude de la biologie des parasites. Et également, vous avez consacré votre carrière au développement de nouvelles stratégies de prévention des grandes pandémies parasitaires. C'est un sujet, on verra, qui aura été plus ou moins évoqué aussi lors de ces déclarations communes. Alors, au sein de l'Institut de France, ici même, vous êtes délégué aux relations internationales et c'est donc vous qui avez traité de près cette déclaration commune des 8 académies. Alors, rappelons-le brièvement avant d'entrer dans le vif du sujet. Le G8 regroupe donc 8 pays, comme son nom l'indique, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, et puis le Canada et enfin la Russie depuis 1998. Et le G8 a été une initiative il y a maintenant de cela 30 ans. Alors au départ, ça s'appelait le G5.
Absolument.
Et ça a été initié par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing.
Complètement.
Alors, chaque année, depuis plus de 30 ans, les chefs d'État des 8 grands pays se réunissent pour évoquer les grandes directions à prendre, tant sur le plan économique qu'environnemental. Maintenant que les présentations sont faites, vous, André Capron, les 8 académies et puis le G8, vous allez pouvoir nous dire pourquoi une déclaration commune a été faite et depuis combien de temps ça existe, le fait de se rassembler entre académies.
Alors d'abord, merci beaucoup de bien vouloir m'interroger sur cet événement qui est effectivement important à beaucoup d'égards. Je voudrais vous apporter tout de suite une toute petite précision. Mm-hmm. C'est que le G8, en fait, a été le G11. Et en particulier cette année, déjà l'année dernière, certains autres pays avaient été invités à se joindre à la réunion du G8. Et cette année, outre les pays que vous avez cités, le Brésil, la Chine, l'Inde et, à titre tout à fait intéressant, l'Afrique du Sud ont été invités à se joindre aux délibérations du G8 et ont participé par conséquent, avec les pays que vous avez déjà mentionnés, à l'établissement de ces recommandations dont je vais maintenant vous parler, si vous le voulez
donc
bien.
Donc les pays émergents, pour le coup,
absolument.
La Chine qui va bientôt rejoindre les grandes puissances.
Je pense qu'il est important de vous donner cette information, car elle montre très clairement comment la géopolitique évolue maintenant et combien l'importance des pays émergents que j'ai cités est désormais prise en charge par la communauté internationale, y compris sur le plan scientifique. C'est quand même un événement important. Alors, d'abord, je crois qu'il n'est pas inutile de resituer un peu cette initiative prise l'année dernière par nos confrères du Royaume-Uni, et la Royal Society en particulier, d'associer la communauté scientifique à la réflexion politique internationale menée par les grands chefs d'État dans leur réunion annuelle. Et il n'est pas inutile ici de resituer cela dans un contexte très général dont je me réjouis, je dois dire, à la fois à titre personnel et pour notre académie. C'est en fait la différence de regard portée désormais par les scientifiques sur l'importance que revêt la science dans l'évolution de nos sociétés, dans les progrès sociaux et économiques qui s'attache au progrès de la connaissance. Et qui a conduit au cours des dernières années, notamment grâce à l'initiative d'une grande organisation internationale qui s'appelle l'Inter-Academy Panel, qui rassemble 92 académies des sciences dans le monde et qui est actuellement co-présidée pour quelques mois encore par mon confrère et ami Yves Quéret, qui était mon prédécesseur à la délégation relations internationales de notre académie, et qui a conduit dans ce domaine à la fois une réflexion essentielle et toute une série d'actions qui, je crois, progressivement comble ce fossé qui, vous le savez, est un peu traditionnel entre le savoir scientifique et la société, entre la science, vue bien sûr souvent comme source de progrès, mais aussi génératrice de beaucoup d'inquiétudes. Et je crois que tous ces efforts sont absolument essentiels pour l'avenir de la science et l'avenir de nos sociétés.
Donc vous le disiez, c'est une initiative récente, l'année dernière.
C'est une initiative tout à fait récente, prise l'année dernière à l'occasion du sommet de Gleneagles en Écosse, et à cause, et je dois ici leur rendre hommage, des relations et de l'influence considérable que la Royal Society exerce sur la réflexion politique, scientifique de l'ensemble du pays, et notamment du Premier ministre Tony Blair, il y a eu cette initiative très remarquable prise par nos confrères britanniques d'organiser pour la première fois une rencontre de l'ensemble des académies pour préparer, par leur réflexion, un certain nombre de recommandations qui seraient transmises au chef d'État.
L'année dernière, les
deux thèmes essentiels qui ont été abordés et qui étaient véritablement identifiés de la volonté personnelle de Tony Blair ont été d'une part les changements climatiques et d'autre part le développement de l'Afrique et le développement scientifique de l'Afrique de manière générale. Et je veux dire que ce sont des réflexions qui ont été particulièrement riches, qui ont conduit à des recommandations très claires et très fortes. Souvenez-vous, dans un climat qui n'était pas un climat de consensus total. La position américaine, par exemple, en ce qui concerne les changements climatiques et la position de l'administration du président Bush dans ce domaine, rendait les choses un peu difficiles. Il est quand même intéressant de voir que, en définitive, les recommandations qui sont issues de cette rencontre de Gleneagles ont marqué quand même un progrès de compréhension réciproque.
Et c'est ce qui est intéressant, c'est que, au-delà des recommandations que vous pouvez faire, elles sont suivies.
Absolument. Je dois dire d'ailleurs que j'ai été personnellement très impressionné lorsque, au mois de septembre, nous avons eu un peu une réunion de restitution de nos travaux, d'entendre le secrétaire d'État aux affaires étrangères de Tony Blair venir nous dire, et on a pu le vérifier d'ailleurs, que presque parfois au terme près, la rédaction de nos recommandations avait été entérinée et adoptée par les chefs d'État en tant que tels. Ce qui montre quand même que cette initiative académique n'est pas simplement un exercice académique tel qu'on l'entend souvent, mais véritablement une entrée très concrète, très forte de la communauté scientifique dans le domaine de la réflexion qui porte sur les grands sujets du moment et les grands sujets de société.
Alors, cette année, le G8 se réunit à Saint-Pétersbourg.
Dans quelques jours. 15,
16, 17 juillet, voilà, tout à fait.
Dans quelques jours. Et suivant le modèle qui avait été adopté l'année dernière, puisque j'avais été, à l'issue de la réunion de Gleneagles et de Londres l'année dernière, chargé d'établir pour l'ensemble des académies du G8 un certain nombre de recommandations pour corriger les petites faiblesses que représentait ce premier exercice, et surtout pour en définir la pérennité, car je crois que nous étions tous unanimes sur ce point, pour dire que cette initiative devait être poursuivie, et que nous devions désormais préparer en quelque sorte chacune des réunions du G8 par une réunion des scientifiques et des académies concernées. Donc cette réunion a eu lieu cette année à Moscou, au mois d'avril, et nous avons là travaillé essentiellement sur deux thèmes qui vont constituer les deux grandes priorités scientifiques qui vont être abordées au cours de ce G8 de Saint-Pétersbourg. D'une part, la durabilité, la sécurité des ressources énergétiques dans le monde, vous savez qu'il y a un problème, je n'y insiste pas, d'une importance considérable.
Et on va être amené à en reparler après.
On en vit les conséquences tous les jours.
Oui, tout à fait.
Et puis, d'autre part, et là aussi c'est un sujet dont personne ne peut nier l'actualité et l'importance, et c'est la pérennité, la permanence du risque infectieux, d'une manière paradoxale, alors que nous pensions après l'ère triomphante de l'antibiothérapie, avoir triomphé des grands risques infectieux, on constate qu'il n'en est rien, que tout un nombre important de maladies émergentes ressurgissent, et nous vivons en ce moment, et nous avons vécu cet hiver, évidemment sous la menace d'une pandémie de grippe aviaire, dont on mesure encore les conséquences, mais, et là aussi on pourra y revenir, dont on peut considérer que le risque n'est pas quand même totalement écarté.
Un troisième thème aussi, mais par contre qui n'apparaît pas, qui n'a pas été étudié par
les chefs d'État, et notamment nos collègues russes, avaient souhaité que soit abordé un thème essentiel. Et on en reparlera parce que l'éducation est à la base de toutes les stratégies que l'on peut entreprendre pour corriger ces graves problèmes que représente la découverte ou la mise en place de sources alternatives d'énergie, les économies qu'il convient de faire dans ce domaine, toutes les mesures de prévention qui peuvent être mises en place pour lutter contre le risque infectieux reposent effectivement sur des stratégies éducatives qui ont une très grande place. Donc il était normal qu'on inscrive ce thème, pour des raisons que je trouve d'ailleurs tout à fait légitimes. Ce thème n'a pas été confié à la réflexion des académies. Il a été, je l'ai appris il y a quelques jours, directement traité par les ministres de l'Éducation qui se sont réunis à Moscou très récemment. Par conséquent, élaborer un certain nombre de recommandations dans ce domaine.
Alors, venons-en aux deux thèmes qui vont être abordés. La pérennité et la sécurité de l'énergie, tout d'abord. Alors, il y a plusieurs points qui sont abordés. Tout d'abord, les problèmes, ensuite les solutions, et puis ce qui pourrait être amélioré. Je suppose qu'il faut quand même avoir le soutien, tout d'abord, de la communauté internationale, et puis d'un large public pour pouvoir toucher justement ces gens-là ?
Absolument. Notons tout d'abord, si vous voulez bien, que en fait, je ne suis pas du tout un spécialiste, vous le savez bien, des problèmes de l'énergie, des sources d'énergie, des énergies renouvelables, etc., énergies durables. J'ai été, bien sûr, d'emblée frappé, et dans la continuité, en fait, des réflexions qui avaient été menées l'année dernière sur les changements climatiques, frappé par le fait que toutes les réflexions qui sont sorties de cette rencontre sur la pérennité et la sécurité énergétique ont été marquées aussi par la réflexion que l'on peut porter sur l'influence des sources d'énergie sur la pollution atmosphérique, sur les changements climatiques, etc. etc. Et par conséquent, ces deux thèmes sont étonnamment et intimement liés dans leur vision stratégique et dans leur conception.
Alors, les trois points importants pour le développement durable, donc je cite, c'est la prospérité économique, le développement social et la protection de l'environnement. Le développement social, à quel moment ça intervient dans la question du développement durable ?
Alors, je voudrais là aborder un point particulier qui, je crois, et je m'en réjouis, a tenu une place non négligeable dans les débats de Moscou et qui, j'en suis sûr, prend une place prépondérante dans les débats et les réflexions des chefs d'État. C'est la possibilité d'accès pour tous aux sources d'énergie indispensables à la vie. Or, d'une manière paradoxale, alors qu'un certain nombre de pays dits en développement ont des ressources d'énergie propre et qui ont assuré leur prospérité économique, un très grand nombre de pays en développement, notamment dans l'Afrique subsaharienne, sont totalement dépourvus de ces moyens. Et il y a eu de ce point de vue, et je m'en réjouis encore, des plaidoyers extrêmement forts de la quasi-totalité des membres pour dire qu'une véritable vision de la pérennité et de l'accès aux ressources énergétiques ne pouvait passer que par cette vision globale et notamment l'aide qui pourrait être apportée aux pays en développement pour acquérir les moyens minimaux d'accès à l'électricité et même à l'eau, dont souvent l'accès est commandé par toute une série de ressources énergétiques qui en commandent les moyens. Donc, il y a, vous voyez, dans ce domaine, une prise de position qui, là aussi, rejoint les préoccupations exprimées l'année dernière à propos du développement de l'Afrique, et finalement, une certaine cohérence dans la réflexion qui est en train de s'installer.
Alors, également, la prospérité économique, qui fait partie aussi des points importants dans le cadre du développement durable. Donc, c'est dans la lignée de ce que vous venez de dire. C'est
Absolument. Alors, personne ne peut nier que, je ne vais pas ici vous abreuver de chiffres, ils sont connus du public. Nous dépendons, et notre progrès économique et social dépend effectivement d'une manière impérieuse de ces ressources énergétiques. Nous en consommons de manière excessive. Nous savons que les ressources ressources, et en particulier des énergies fossiles, vont connaître, il faut ajouter là peut-être une petite nuance. Il y a plusieurs langages. Il y a un langage très dramatisé qui prévoit pour 2035 ou 2040 un épuisement des réserves. Il y a des opinions beaucoup plus nuancées de la part d'un certain nombre de personnalités très autorisées dans ce domaine, d'ailleurs, et notamment du monde arabe, des producteurs, qui disent que, à l'heure actuelle, avec le prix de vente d'un baril de pétrole, qui a quand même connu une ascension spectaculaire, on peut se permettre d'avoir des coûts d'exploitation plus élevés et par conséquent d'aller chercher dans des nappes plus profondes les ressources de pétrole qui restent absolument immenses dans ce domaine. Donc, il y a, si vous voulez, des opinions très nuancées.
Mais alors après, là, ça revient à la question du développement social, puisque ça veut dire que toutes les personnes n'auront pas accès à cette énergie.
Absolument. Il est vrai qu'on va maintenant vers une énergie chère, une énergie plus rare, et par conséquent, où il est absolument essentiel d'en diversifier les sources et de rendre certaines de ces sources accessibles aux plus pauvres.
Eh bien, on marque une courte pause, André Capron. On se retrouve juste après pour la suite de notre émission.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie d'André Capron, nous parlons, André Capron, de cette déclaration commune des Académies des sciences à l'occasion du sommet du G8 qui a lieu du 15 au 17 juillet 2006, donc dans très peu de temps. Alors, nous venons de terminer notre première partie sur la question de la diversité, essayer de diversifier nos ressources énergétiques. Alors aujourd'hui, quelles sont justement nos possibilités à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'il faudrait développer ?
Je crois que la raison impose de ne pas mettre un accent ni excessif et a fortiori exclusif sur telle et telle source d'énergie. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je le redis, le choix de ces ressources énergétiques est maintenant très dépendant de la préservation de l'environnement et de notre capacité à maintenir, autant que faire se peut, une maîtrise de cet environnement. Je sais que on peut parfois douter de l'efficacité de certaines politiques, mais en tout cas, je crois pouvoir dire que la volonté politique commence à se manifester, existe, en dépit des réticences initiales que vous connaissez. Et par conséquent, la diversification est quand même inspirée très largement de cette volonté de préservation environnementale. Alors, je dirais quand même, mais il faut s'en souvenir, que le charbon reste de ce point de vue une ressource énergétique considérable, peut-être la plus importante, notamment dans certains pays comme la Chine, la Russie ou d'autres pays, et les ressources en charbon sont énormes. Elles ont comme inconvénient, celles que vous connaissez, c'est haute pollution, émissions de CO2, etc. etc.
Donc on pourrait se tourner vers cette source d'énergie, mais par contre qui serait très polluante.
Ou alors en accompagnant probablement de toute une série de stratégies de séquestration de CO2 ou de capture et par conséquent de préservation environnementale dont je ne sais pas si elle serait économiquement compatible avec l'utilisation. Quoi qu'il en soit, on doit quand même garder en mémoire l'importance de cette ressource. On doit aussi garder en mémoire, bien sûr, l'importance de l'énergie nucléaire
qui se développe de manière
considérable. La France a pris de ce point de vue, vous le savez, un avantage important grâce aux décisions historiques qui ont été prises dans ce domaine. Et je crois que là encore, en assortissant cette approche de toutes les garanties de sécurité qui doivent l'accompagner, mais je crois que les progrès qui ont été faits dans ce domaine permettent de le dire avec une quasi-certitude, c'est probablement, en ce qui concerne en tout cas le problème de l'électricité, l'une des sources de production énergétique la plus prometteuse et la plus importante.
Et puis après, nous avons les énergies que nous disons propres, la géothermie, l'énergie éolienne.
Absolument. Alors, je pense que l'énergie éolienne, il faut en dire un mot, parce que je crois qu'on a beaucoup fondé d'espoir sur ces énergies éoliennes. Je crois que l'enthousiasme retombe un peu. et même très certainement.
Il retombe un peu pour les scientifiques ou...
Non, il retombe pour des raisons économiques. D'abord parce que ces installations sont très coûteuses. Le rapport entre leur coût et l'efficacité de production est relativement faible. Et le pays le plus équipé dans ce domaine, c'est le Danemark, qui comporte plusieurs centaines, voire milliers d'éoliennes, et dont l'apport à la consommation énergétique globale du pays dépasse à peine 10%. Il est, sauf à imaginer que l'on garnisse toutes nos côtes d'une rangée, de plusieurs rangées d'éoliennes, ça reste quand même, je crois, un moyen et une diversification qui restera limitée à certaines utilisations localisées.
La géothermie.
Alors la géothermie, ça c'est un autre problème. La géothermie, c'est vrai que, utilisant ce type d'énergie solaire en particulier, on peut entrevoir, et ça a été fait déjà, un début d'apport autonome dans les pays en développement. Le soleil est probablement ce qui manque le moins. Les équipements thermiques sont maintenant d'un coût relativement abordable. Et là aussi, on peut traiter avec beaucoup d'efficacité des problèmes locaux. Certains pays ont commencé à le faire, ont rationalisé. Le Maroc, par exemple, a mené dans ce domaine une politique de développement d'énergie solaire extrêmement efficace, très bien organisée, qui a conduit à la mise en place de réseaux de distribution électrique locaux très efficaces. Bref, je crois qu'on a là des exemples vus avec intelligence, un souci d'efficacité, et puis en même temps une volonté de partager, si vous voulez, ces sources d'énergie, de ne pas en faire le privilège de certains, mais de les consacrer au progrès socio-économique des plus pauvres, on arrive à une vision qui peut se résumer en deux phrases. D'une part, on a encore besoin de beaucoup de recherches dans ce domaine pour permettre d'améliorer les outils existants, probablement d'en découvrir d'autres d'ailleurs, car dans ce domaine, il reste encore des ressources potentielles que nous n'avons pas complètement explorées. Et puis aussi, de faire en sorte que, bâti sur une éducation qui est en train de se faire, qui est en train de naître, on apprenne aux consommateurs et aux pays les plus riches à respecter cette richesse étonnante qui est l'énergie dont on peut disposer. Et de ce point de vue, l'éducation est encore une fois un problème essentiel. Certains pays, l'Allemagne en particulier, ou les pays du Nord, ont mis en place des politiques d'économie énergétique simplement par une transformation de leur vision de l'habitat qui évite les déperditions inutiles d'énergie. Vous savez, elles sont considérables. On gaspille dans la nature 30 ou 35% d'énergie qu'on utilise simplement parce que nos maisons, nos appartements n'ont pas
l'isolation
nécessaire, etc. Donc il y a à la fois dans l'éducation, dans la pratique quotidienne, toute une série de choses qui, à la fois, préservent la qualité de notre environnement, réduisent notre dépendance par rapport à ces besoins énergétiques considérables et permettent certainement d'investir dans des stratégies alternatives et une politique de recherche qui vise à la diversification.
Donc, pour le coup, c'est ce que préconise cette déclaration.
Absolument. Vous avez là, si vous voulez, un peu la philosophie, si j'ose dire, qui sous-tend toutes les recommandations qui ont été portées à l'attention des chefs d'État.
Mais alors, il y a un deuxième thème qui a été sélectionné pour justement cette déclaration commune qui correspond, vous nous l'avez dit au tout début de cette émission, aux maladies infectieuses et à la grippe aviaire.
Oui.
Alors là aussi, effectivement, un thème d'actualité.
Oui.
Alors, quelles sont les recommandations des 8 académies concernant ce sujet-là?
Là, on touche à un problème de nature un peu différente par rapport au problème de l'énergie. D'abord pour rappeler d'ailleurs à l'ensemble de ceux qui nous écoutent que les maladies infectieuses sont un peu comme les civilisations. Elles évoluent par cycle, elles vivent et meurent et accompagnent finalement l'évolution des sociétés humaines. C'est vrai qu'il y a eu, il y a maintenant 60 ans, 70 ans, des événements importants, la découverte des antibiotiques qui a fait espérer que notre lutte contre les agents infectieux allait connaître un tournant absolument définitif, c'est vrai dans une large mesure, mais on avait compté sans un phénomène auquel nous assistons d'une manière assez dramatique d'ailleurs, depuis 25 ou 30 ans, et qui est ce qu'on appelle la naissance des maladies émergentes. Il faut savoir que non seulement un certain nombre d'affections traditionnelles n'ont pas disparu, mais encore nous assistons depuis 30 ans à la naissance d'un nombre considérable, plus de 35 maladies nouvelles infectieuses ont émergé au cours des 20 ou 25 dernières années. Le sida en est une des illustrations la plus exemplaire. Vous avez...
Le virus Ebola.
Vous avez connu, bien sûr, les exemples du virus Ebola, qui est un problème un peu particulier dont le risque pandémique est quand même limité. C'est probablement à cause de ces modes de transmission. Ça reste une maladie redoutable, bien sûr. Mais alors, il y a effectivement la naissance de toute une série de maladies extrêmement préoccupantes. On a connu l'épisode du syndrome aigu respiratoire, le SARS. On vit en ce moment le problème de la grippe aviaire.
Le problème est un peu retombé. On a connu une période de psychose.
Oui, mais encore une fois, je souhaiterais que l'opportunité de cette interview me permette d'attirer l'attention sur deux points. D'une part, il est clair lorsqu'on analyse, au cours des dernières années, ce qui a été fait dans le domaine de l'identification des agents pathogènes, c'est-à-dire de ces microbes, de ces virus qui sont à l'origine. On peut dire que 117 agents nouveaux, je crois, ont été identifiés dans les 20 ou 25 dernières années. Plus de 60% d'entre eux sont d'origine animale. Ce qui met l'accent, si vous voulez, sur un risque permanent de l'existence d'un foyer de foyers animaux potentiellement responsables de l'infection humaine. Par conséquent, de ce saut dangereux que représente pour l'espèce humaine, d'agents qui sont très pathogènes pour des espèces animales qui nous sont proches, ce sont les animaux d'élevage, maintenant ce sont les oiseaux et notamment les oiseaux d'élevage. Tout cela doit nous laisser penser que cela restera un risque permanent. Et que si nous connaissons, comme c'est le cas en ce moment, pour des raisons épidémiologiques ou de migration saisonnière, un calme relatif dans nos craintes, ne nous faisons aucune illusion, elles réapparaîtront. Et par conséquent, elles exigent que soit prise en compte toute une série de démarches et de mesures. Et ce que j'espère pour ma part, et c'est un des discours que j'ai tenu, c'est que même dans un environnement qui, à l'heure actuelle, nous permet un certain optimisme, je l'espère raisonné et réel, le risque reste tel que nous devons tirer les leçons dès maintenant de ce que nous avons appris avec l'alerte qu'a représenté pour le monde entier le risque de pandémie de la grippe aviaire.
Alors justement, vous préconisez...
Donc il faut dépasser le sujet spécifique de la grippe aviaire.
Voilà, il faut se servir de ça pour pouvoir tirer les conséquences.
Absolument.
Tirer les conséquences et pour pouvoir évoluer dans le bon sens.
Les conséquences, c'est quoi ? Les conséquences, qu'est-ce qu'on a mesuré au travers de ce risque pandémique ? D'une part, la faiblesse de nos systèmes internationaux, de nos systèmes mondiaux, d'observation et surtout de récolte de données, de communication de ces données.
Pourtant, il existe des organismes.
Alors, il existe.
L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé.
Complètement. Alors, là aussi, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de faire la critique de l'OMS. Mm-hmm. Je suis simplement en train de dire que l'OMS a mis en place un système qui a toute sa valeur, mais qui est un système limité et où il y a des trous énormes dans ce qui devrait être un réseau international extrêmement dense de centres ou de localisations épidémiologiques fortes qui permettent de transmettre, de les récolter d'abord, de les analyser, de les transmettre et d'avoir un réseau de surveillance globale qui n'a pas été encore mis en place, quels qu'étaient les efforts de l'OMS. Donc, il y a là, si vous voulez, un plaidoyer très fort en faveur de la mise en place d'un système de surveillance globale du risque épidémique dans le monde.
Encore faut-il que tous les pays communiquent leurs informations.
Vous touchez là. Un problème essentiel. D'une part, c'est qu'il est vrai qu'un certain nombre de pays les plus avancés disposent de ce type de moyens d'observation et de rapports, en quelque sorte. Beaucoup des pays dans le développement, sinon la plupart, ne les ont pas. Il y a donc des trous immenses entre l'Asie et l'Europe, par exemple. Il y a toute une série de canaux où on ne sait rien.
Voilà, donc un manque d'outils.
Et donc, on manque d'outils, donc il y a la création de ces outils. La deuxième remarque qui est importante, c'est que, compte tenu de ce que je vous ai dit, de la prééminence d'origine animale de la plupart de ces infections, on ne peut que constater, déplorer le manque de relations à tous les niveaux et de coordination entre la science vétérinaire et la science médicale. Ce sont deux communautés très estimables, l'une et l'autre, mais qui ne se parlent peu, voire pas, n'a pas eu l'habitude de travailler ensemble, ont des organisations séparées qui communiquent très mal Et on a pu mesurer à l'occasion de ce risque pandémique ce que pourrait être le drame si l'on continuait à travailler dans cette ignorance réciproque à la fois des compétences et des priorités. Donc, je crois qu'une des grandes leçons qui a été retirée, qui constitue l'une des recommandations extrêmement importantes, c'est la mise en place, au plan international, de structures de coordination et de réflexion et d'action commune entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire, d'une manière très claire.
Alors, je crois, une autre recommandation, c'est activer la recherche dans le domaine de la création de vaccins.
Alors là, nous retombons. Je n'ai pas négligé, bien entendu, cet aspect. C'est vrai que plusieurs aspects sont à considérer dans le domaine de la recherche. Je vous citais à très juste titre le problème des vaccins. Mettez-vous quand même bien dans l'esprit que l'importance du risque pandémique, s'il s'avérait réel, est telle que la couverture vaccinale à l'échelon du monde et plusieurs dizaines de millions de doses vaccinales serait probablement très difficile à assumer. Et même si on peut espérer juguler la montée de certaines épidémies régionales ou locales, je ne suis pas absolument convaincu que la vaccination soit la seule réponse. Elle est essentielle.
Alors, quelles seraient les autres réponses ?
Alors, l'autre réponse, n'oubliez pas que là aussi, même si nous avons un certain nombre d'armes thérapeutiques, elles restent limitées dans leur efficacité, et parce que, encore une fois, beaucoup de choses restent ignorées dans les mécanismes de pathogénicité, des mécanismes par lesquels ces agents entraînent la maladie et la mort. On a pu d'ailleurs dans ce domaine, très récemment, faire un progrès important, grâce à des observations scientifiques de très grande valeur, qui montrent que les récepteurs, c'est-à-dire les sites de la cellule où s'accroche le virus en quelque sorte, ne sont pas localisés dans les mêmes endroits et les mêmes lieux de l'arbre respiratoire chez les animaux où c'est très dans l'arbre respiratoire supérieur ou chez l'homme où c'est très profondément dans le poumon. Ce qui explique d'ailleurs que le passage de l'infection animale vers l'infection humaine et de la maladie animale vers la maladie humaine se fasse certainement d'une manière beaucoup plus limitée. D'ailleurs, les chiffres montrent que par rapport au nombre considérable de poulets ou de volailles infectées, les taux d'infection
humaine... Vraiment un contact prolongé et intime.
Voilà. Alors, il reste aussi une recherche fondamentale à faire sur les mécanismes de mutation et l'identification, bien sûr, des mutations liées à l'expression de la pathogénicité d'une manière générale. Et puis, vous l'avez dit vous-même, toute cette recherche sur les vaccins dont je dois dire qu'il serait une erreur de considérer qu'elle sera la réponse définitive.
Alors voilà, les autres réponses possibles.
Alors, les réponses possibles, elles sont d'abord dans une meilleure connaissance des mécanismes de transmission et d'intervention au niveau des communautés humaines. On revient une fois de plus, et même dans les populations les moins évoluées, à la nécessité de mettre en place, c'est une vision de long terme, ça ne se fera pas en 8 jours, les résultats ne pourront pas être appréciés en 3 semaines. C'est probablement au niveau de une ou deux générations que tout cela se fera, mais ça se fera par l'éducation à la santé, par des populations. Notre académie, d'ailleurs, dans ce domaine, à mon initiative, lancé, vous savez, un très grand programme international qui est suivi par 24 académies dans le monde et qui, prenant en compte l'importance considérable des femmes dans l'éducation à la santé, a mis en place un programme qui est désormais lancé, qui s'appelle Women Health Education, éducation des femmes à la santé et pour la santé, et qui vise justement à introduire cet élément éducatif qui est absolument essentiel si l'on veut aborder des stratégies de longue durée.
Donc tout un travail de prévention et puis après tout un travail de recherche vraiment sur la maladie.
Absolument.
Eh bien, merci André Capron de nous avoir donné les détails de cette déclaration. Et nous verrons dans quelques jours si les chefs des 8 États auront pris en compte ces déclarations et les auront intégrées dans leur programme à venir. Merci beaucoup.
Merci en tout cas de m'avoir accueilli.
Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre de l'Académie des sciences et que vous êtes délégué aux relations internationales.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.